Il y a près d'un siècle, les personnes avec trisomie 21 n'atteignaient pas l'adolescence. Aujourd'hui, elles peuvent largement vivre au-delà de 60 ans. Globalement, toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont vu leur espérance de vie s'allonger considérablement au cours des dernières décennies. Désormais, elles atteignent des âges auxquels elles sont susceptibles de développer des maladies associées à la vieillesse, des maladies neuro-évolutives telles que la maladie d'Alzheimer.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche d'IMA pour informer sur la situation spécifique des personnes avec déficience intellectuelle confrontées à la maladie d'Alzheimer.
La maladie d'Alzheimer peut toucher n'importe qui, et donc aussi des personnes avec une déficience intellectuelle. Cela dit, il faut savoir qu'elle affecte particulièrement tôt les personnes porteuses de trisomie 21. Pour ces dernières, la maladie se déclenche de façon précoce. Les premiers symptômes peuvent apparaître 15 à 20 ans plus tôt que dans la population générale, parfois dès 45 ans.
Épisode 1. Quand la déficience rencontre la maladie. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
On a donc, d'un côté, des personnes avec une déficience intellectuelle qui vieillissent et qui, pour certaines d'entre elles, vont développer des troubles liés à la maladie d'Alzheimer, et de l'autre, des proches et des professionnels qui sont aux prises avec une situation complexe, notamment parce que très peu de professionnels sont formés à l'association handicap mental, pathologie liée au vieillissement. Alors dans ce podcast, grâce à l'équipe de la communauté mixte de recherche d'IMA, DIMA pour déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer, nous allons vous donner quelques pistes pour faire face si vous êtes un jour confronté à la survenue de la maladie d'Alzheimer chez une personne avec déficience intellectuelle. Muriel Delporte est sociologue et coordinatrice scientifique de la communauté mixte de recherche DIMA.
C'est une question nouvelle et il y a de plus en plus de situations dans les établissements, dans les services, avec des professionnels et des familles qui sont particulièrement démunis. Alors démunis encore une fois parce que c'est une question nouvelle qu'on est en train de découvrir, sur laquelle on manque encore de connaissances. Et puis aussi dans le contexte français parce que ça s'inscrit dans une configuration assez spécifique qui est qu'on a le champ du handicap avec des établissements, des services dédiés aux personnes handicapées d'un côté et le champ de la vieillesse de l'autre, qui est le champ dans lequel on développe le plus de dispositifs pour les personnes malades d'Alzheimer, parce que ça touche plus particulièrement les personnes les plus âgées.
Muriel Delporte pointe ici une spécificité de notre système de soins qui impacte directement la situation des personnes avec une déficience intellectuelle qui déclenche la maladie d'Alzheimer. Les structures à destination des personnes en situation de handicap et les professionnels qui y travaillent ne sont pas les mêmes que les structures et les professionnels qui prennent soin des personnes âgées dépendantes.
Le fait qu'il y ait cette partition entre le handicap et la vieillesse, ça fait qu'on a des établissements, des services, des professionnels qui fonctionnent de façon cloisonnée. Donc on va avoir des professionnels du handicap qui ne sont pas formés à la maladie d'Alzheimer, à qui on n'a jamais parlé de cette éventualité-là en formation initiale, et de l'autre côté, des professionnels qui vont travailler dans le champ sanitaire gérontologique qui, eux, ne sont absolument pas formés au handicap et qui ne sont pas toujours formés non plus à l'accompagnement au quotidien sur des choses vraiment pratico-pratiques des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Donc il y a un premier enjeu, c'est de décloisonner ces champs et de permettre à ces professionnels de se former, mais surtout d'échanger parce qu'ils ont aussi des cultures professionnelles différentes et il faut qu'ils arrivent à se rencontrer et à parler. Et l'autre enjeu aussi, c'est que ce cloisonnement fait que les professionnels du handicap ne connaissent pas les ressources spécialisées, telles que par exemple les centres mémoire, ne peuvent pas non plus orienter les familles qui ne savent pas vers qui se tourner, et les professionnels, s'ils n'ont pas les connaissances, ne peuvent pas non plus les orienter. Et de l'autre côté, encore une fois, des professionnels spécialistes quelque part de la maladie d'Alzheimer qui, eux, ne connaissent pas les ressources dans le champ du handicap.
Ce n'est pas simple de savoir vers qui se tourner pour obtenir des informations et mettre en place rapidement un accompagnement adapté quand une personne avec déficience intellectuelle présente des troubles qui pourraient être liés à la maladie d'Alzheimer. Ce sont souvent les professionnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui vont être, avec les proches, les premiers confrontés au repérage de ces troubles.
Avant même le diagnostic, c'est qu'est-ce que les familles, qu'est-ce que les professionnels vont repérer comme trouble. C'est-à-dire que leurs proches ou la personne qui les accompagne va se mettre à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Et il va y avoir un gros enjeu pour elle d'essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que éventuellement c'est une maladie qui arrive? Est-ce que c'est le vieillissement? Est-ce que c'est le cumul du handicap et du vieillissement? C'est souvent les questions qu'on trouve. Et puis à ça va se mêler tout ce qui est de l'ordre des représentations autour de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on entend encore trop souvent dans les établissements, c'est voilà, telle personne, on pensait que c'était une maladie d'Alzheimer, et puis finalement, non, ça peut pas être une maladie d'Alzheimer, parce que hier on lui a parlé d'un truc et il s'en souvenait. Parce qu'on a l'idée que la maladie d'Alzheimer, c'est une perte de mémoire globale, homogène, alors que non, c'est pas ça. On peut tout à fait avoir une maladie d'Alzheimer et se rappeler de certains trucs. Et ça, faut que les gens le sachent pour pouvoir repérer. Les professionnels le disent tous. Et voilà, on a l'habitude d'accompagner des personnes handicapées qui vieillissent. Là, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce qu'on observe d'habitude, quoi. C'est des gens qui vivent dans le même foyer depuis 20 ans et qui retrouvent plus leur chambre. C'est des travailleurs des ZAD qui se lèvent la nuit pour aller bosser. Et ce qu'ils disent à chaque fois, c'est ça s'était jamais produit. C'était pas comme ça avant. C'est ce qu'on entend toujours.
Il faut que les personnes concernées, mais aussi les proches et les professionnels, puissent comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir agir au mieux. Il faut aussi bien prendre en compte le bouleversement que représente l'apparition d'une maladie d'Alzheimer au sein des familles.
Pour les familles, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a des situations très diversifiées. Elles peuvent vivre, être à leur domicile avec leur enfant adulte en situation de handicap. Elles peuvent avoir un enfant qui vit en établissement. Ce qui est difficile pour ces familles, c'est que très souvent, quand leur enfant est né, on lui a annoncé une très faible espérance de vie. Donc c'était des enfants qui devaient mourir jeunes. Et elles ont été confrontées au fait que cet enfant allait vieillir. À un moment, il y a une prise de conscience du fait que cet enfant allait leur survivre. Et aujourd'hui, il y a le fait que cet enfant peut être atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est encore plus compliqué. D'abord parce que, comme c'est des personnes handicapées, on a tendance à pas réussir à penser même qu'une personne handicapée puisse avoir une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est associé à la vieillesse, au champ de la vieillesse. Donc déjà, on a du mal à le penser. Et quand on pense n'importe qui dans notre vie, quand on envisage la maladie d'Alzheimer, on peut la penser pour nos parents, on peut en avoir peur pour nous-mêmes, on n'y pense pas pour nos enfants. Donc c'est des familles qui ont particulièrement besoin d'être soutenues pour faire face à cette maladie, pour trouver les ressources. Et puis souvent, quand leur enfant vit en établissement, la première question qui vient, c'est « mais s'il a cette maladie, il ne va pas pouvoir rester là, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Ça remet en cause, ça remet en question tout ce qui a été installé très patiemment pendant des années et des années.
Muriel Delporte le soulignait à l'instant, il va falloir échanger. Parce que sur le terrain, les professionnels du champ du handicap, de la gérontologie et de la santé, et les proches, font preuve de réactivité et d'inventivité. Confrontés à la situation, ils adaptent leurs pratiques et sont déjà en train d'agir pour changer les choses. Mais tout le monde ne sait pas ce qui se fait ailleurs.
C'est une question qui est encore très largement invisibilisée, notamment au niveau des décideurs politiques, des politiques publiques. Mais par contre, sur le terrain, ça bouge, comme toujours. De toute façon, les professionnels et les familles, les personnes, les situations arrivent sur le terrain. Donc les professionnels, bien sûr, qu'ils accompagnent les personnes. Et ils font des choses qui sont extrêmement intéressantes. Les deux enjeux principaux, le premier, ça va être de communiquer sur cette question, c'est de le faire savoir. Trop souvent, encore aujourd'hui, j'entends, quand j'explique que je travaille sur cette question des personnes qui ont une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, la réaction c'est « ah bon, les personnes handicapées peuvent avoir une maladie d'Alzheimer ». Donc oui, elles peuvent et il faut développer des modes d'accompagnement adaptés. Communiquer, c'est aussi partager les expériences. Comme je disais, il y a des équipes qui développent des choses extrêmement intéressantes, il y a des familles qui développent des pratiques d'aide extrêmement intéressantes. Il ne faut pas que tous ces gens soient isolés. Ce qui est fait par les uns peut inspirer les autres. Il faut réussir à mettre en commun, il faut réussir à partager, à montrer ce qu'on fait et potentiellement à inspirer d'autres. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est de collaborer, c'est-à-dire de construire ensemble, de réfléchir ensemble. Accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, ça nécessite notamment d'avoir des connaissances sur la déficience intellectuelle et des connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Et bien entendu aussi des connaissances de cette personne précisément, de tout ce qui fait que c'est un individu unique. Et pour ça, effectivement, ben voilà, faut que les équipes de champs différents puissent collaborer, discuter ensemble, qu'on puisse travailler entre professionnels, avec les familles, qu'on puisse travailler avec les personnes concernées, pour développer des modes d'accompagnement nouveaux.
Autant pour pouvoir reconnaître les signes de la maladie que pour penser des dispositifs d'accompagnement à la croisée du sanitaire, du handicap et de la gérontologie, les acteurs concernés doivent travailler ensemble. Les familles ont besoin des professionnels, tout comme les professionnels ont besoin des proches et des personnes concernées. Et c'est justement pour accompagner ce processus que la communauté mixte de recherche DIMA a été créée.
C'est la raison d'être de cette communauté de recherche, hein, donc DIMA pour déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Dans cette communauté, on a des chercheurs de disciplines différentes, on a des professionnels du handicap, de la gérontologie, des professionnels de santé, des professionnels de la formation, on a des familles, on a des personnes avec déficience intellectuelle, on a des étudiants, on a des personnes ressources. Et l'idée, c'est que personne ne sait mieux que l'autre. Chacun a quelque chose à apporter. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en commun nos expériences, nos savoirs, que ce soit des savoirs théoriques, des savoirs expérientiels, des savoirs d'usage, et de réfléchir ensemble à comment faire pour accompagner au mieux des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui sont confrontées à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qui sont ou elles-mêmes atteintes par la maladie ou confrontées à la survenue de la maladie chez un de leurs proches. Ça peut aussi toucher leurs parents, ça peut toucher leur conjoint, ça peut toucher un ami. Donc elles ont aussi besoin d'avoir des informations adaptées sur la maladie d'Alzheimer parce que très souvent, elles sont amenées elles-mêmes à développer des pratiques d'aide.
La communauté mixte de recherche, c'est un espace d'analyse des pratiques et un observatoire des ressources existantes, mais aussi un lieu de production et de diffusion des connaissances avec pour vocation de faire émerger des projets de recherche participative qui serviront à améliorer la vie des personnes handicapées, âgées et malades. Parce que oui, nous devons collectivement prendre soin des personnes les plus vulnérables.
Il faut insister sur le fait qu'il y a de plus en plus de situations, parce que ce que je peux entendre des fois, c'est « ouais, mais ça ne concerne pas beaucoup de personnes ». Peut-être. D'abord, on n'en sait rien. Il y a des enjeux autour du diagnostic, il y a rarement des diagnostics posés. Donc déjà, la prévalence, on n'en sait rien. Et ensuite, même peut-être que ça ne concerne pas encore beaucoup de personnes, mais c'est un besoin qui va évoluer. Et c'est un nouvel enjeu de santé publique. Donc voilà, il y a déjà cette priorité-là. Ensuite, très concrètement, ce que je disais tout à l'heure, on a des professionnels, des familles, des personnels même qui sont fortement démunis, qui sont dans des situations difficiles, et on ne laisse pas les gens comme ça. Elles ont besoin d'être soutenues, ces personnes. Le troisième enjeu, c'est que ce qu'on va développer pour ces personnes, in fine, va servir à tous. On voit bien que quand on réfléchit au mode d'accompagnement adapté à des personnes qui ont une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, il y a des outils, il y a des démarches qui vont s'appliquer à des personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'elles aient eu une déficience intellectuelle ou pas. Donc il y a un enrichissement. Ça nous permet d'enrichir nos pratiques dans tous les champs et de réfléchir ensemble pour l'accompagnement du plus grand nombre. Donc au niveau de DIMA, on n'a pas la prétention d'apporter des réponses à tout le monde, mais en tout cas, on a vraiment la volonté de réfléchir ensemble et puis aussi de repérer. Ça, c'est un enjeu qui est très important pour nous, c'est de ce rôle un peu d'observatoire, d'essayer de repérer sur le territoire national qui a fait quoi, qui... C'est pas forcément un super projet, ça peut être juste une petite idée, une petite astuce que des professionnels ou des familles ont trouvé dans leur pratique et qu'elles puissent le partager, quoi, et qu'on puisse le partager ensemble.
Dans le prochain épisode de ce podcast, nous parlerons des enjeux autour du diagnostic de maladie d'Alzheimer. D'ici là, pour en savoir plus, rendez-vous sur social-project.fr/DIMA. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le mettre en lien sur votre site ou à le rendre disponible dans une structure professionnelle. C'est tous ensemble que nous réussirons à faire mieux connaître cette problématique émergente.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche DIMA pour informer sur la situation spécifique des personnes avec déficience intellectuelle confrontées à la maladie d'Alzheimer. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.